La Mutualité Française Sud, délégation de Vaucluse, vous présente les Live Santé sur RTVFM.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale santé avec la Mutualité Française. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endométriose. On estime en France que 2 millions de femmes souffrent de cette maladie. Pour en parler avec moi, je vous présente Madame Amandine Poudou, sage-femme coordinatrice au Centre Endométriose Complexe d'Avignon. Bonjour Madame Poudou.
Bonjour.
Madame Odile Gros de la Mutualité Française. Bonjour Madame Gros.
Bonjour.
Et puis Manon Barbin, qui est fondatrice de l'association Manoleta.
Bonjour. Bonjour.
Alors, Madame Gros, c'est à l'initiative de la Mutualité Française que proposait cette émission spéciale santé. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Ben oui, effectivement, c'est à l'initiative de la Mutualité Française. Nous sommes le premier acteur privé en France en nombre d'actions de prévention et de promotion de la santé. La Mutualité Française agit pour défendre l'accès à la santé pour tous. Concrètement, nous sommes là pour servir la société, le mutualisme et les mutuelles. Au niveau national, nous sommes 500 mutuelles. Au niveau territorial, 126. Nous nouons des partenariats avec les autres acteurs de la santé, les institutionnels, des personnes de la société civile pour mettre en place ces actions de prévention et de santé. Nous sommes au service de la santé et du bien-être. Alors la santé, on peut rappeler que c'est le bien-être physiologique et psychologique, donc on voit sur tous les fronts sur lesquels il faut agir. Et puis, dans la région sud, nous avons décidé d'avoir, sur le département, pour la délégation territoriale, plusieurs actions de promotion de la santé et de prévention, dont ces émissions, voilà, ces petites émissions sur lesquelles nous avons parlé déjà de la santé des femmes. La santé des femmes, c'est compliqué de prendre en charge dans la globalité la santé des femmes. C'est compliqué d'être présent sur tous les territoires. Et nous nous attachons à être présents aussi bien dans les villes que dans les territoires ruraux pour prendre en charge et en considération justement ces femmes qui ont du mal à faire entendre leurs problématiques de santé. Et l'endométriose, ça en fait partie. C'est quelque chose dont on parle, c'est une pathologie dont on parle un peu plus, c'est ce qu'on disait. Mais c'est encore quelque chose qui reste un peu entre soi, puisqu'on sait qu'il y a entre 5 ans et 7 ans d'errance, vous en parlerez mesdames beaucoup mieux que moi, à partir des douleurs que l'on ressent et de la pose d'un diagnostic. Donc oui, c'était important pour nous d'aller vers ces femmes et de commencer à les mettre en lien avec des associations et puis de pouvoir en discuter et de pouvoir parler de l'accessibilité aux soins et qu'elles aient accès à des soins de qualité dans cette pathologie et dans d'autres, puisqu'on sait que c'est quand même une problématique importante pour les femmes aujourd'hui de se soigner avec la charge mentale, les familles monoparentales. Mais ça peut être l'objet d'un autre sujet. Aujourd'hui, nous sommes sur l'endométriose et je laisserai ces dames en parler beaucoup mieux que moi.
Alors justement, parlons d'endométriose. Peut-être redéfinir, ou en tout cas définir, ce que c'est que l'endométriose, Madame Poudou.
Oui, alors d'abord, merci pour votre invitation et cette possibilité justement de pouvoir en parler. Effectivement, l'endométriose, c'est d'abord une maladie féminine, gynécologique, chronique. Elle est liée à la présence de tissu endométrial qui est situé à l'extérieur de la cavité utérine. Donc, qu'est-ce que l'endomètre ? L'endomètre, c'est la muqueuse qui recouvre l'intérieur de l'utérus. C'est ce qu'on va perdre au moment des règles et ce qui va permettre justement l'implantation de l'embryon au moment de la grossesse. Donc c'est une maladie qui, comme vous l'avez dit, est marquée par un retard diagnostique. Le délai, effectivement, il alterne au niveau de la littérature entre 7 à 10 ans en moyenne. Et c'est, en termes de probabilité, une maladie qu'on retrouve chez une femme sur 10 en moyenne en âge de procréer, à savoir que c'est vraisemblablement des chiffres qui sont plutôt sous-évalués, ça Manon le reprendra. Et c'est une maladie qu'on retrouve même chez les patientes qui souffrent d'infertilité dans un cas sur deux. Donc c'est dire l'importance et la présence de cette maladie dans le quotidien des femmes, et ça dans tous les volets, que ce soit au niveau de leur vie professionnelle, de leur vie familiale, de leur vie intime, de leurs activités sportives. Ça se marque un peu dans tous les champs de la vie des femmes.
Alors les chiffres sont quand même colossales, enfin, c'est énorme les chiffres que vous avancez. Comment se fait-il qu'aujourd'hui ça prenne autant d'ampleur ? Est-ce que c'est parce qu'on découvre et qu'on a un meilleur diagnostic aujourd'hui ? Ou parce que c'était complètement... Il y a une modification de notre environnement, notre façon... Pourquoi l'endométriose est aussi présente aujourd'hui ?
Alors l'endométriose, déjà, c'était une maladie qui avait été décrite par Karol Rokitansky donc à la fin du 19e, donc elle est connue depuis déjà un certain temps. C'est grâce notamment à la Voix des Femmes, aux associations dont fait partie Manoleta, qui a exprimé justement ces symptômes, qui a demandé et qui a crié pour qu'on s'en occupe jusqu'au gouvernement, puisque en 2022, on voit qu'il y a une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, donc ça montre la reconnaissance aussi. Donc c'est un peu tout cet ensemble d'éléments qui a fait que là, actuellement, on est mobilisé effectivement et qu'il y a une organisation concrète qui se met en place au niveau national et également au niveau international. Vous parlez de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, leur définition, c'est quelque chose qui a vraiment un impact et qui est pris en compte.
Manon Barbin, vous êtes la fondation de l'association Manoleta. Donc vous accompagnez les femmes dans votre association. On en parlera un peu plus tard de cette association. Mais de quoi se plaignent les femmes dans les symptômes ?
Ah ben la douleur. C'est principalement ça. Et puis le manque d'écoute, le manque d'accompagnement, parce qu'on est face à une maladie, comme vous l'avez dit, qui est... même si elle est connue depuis 1860, hein, ça fait un moment quand même,
oui.
Voilà. Et ben en fait, non, les professionnels ne la connaissent pas bien, donc l'accompagnement n'est pas top, mais justement, on y travaille, et le centre endométriose complexe aussi, hein, c'est leur priorité d'avoir un bon accompagnement, une bonne prise en charge. Mais voilà, la première souffrance, c'est la douleur, c'est le manque d'écoute, le manque aussi de reconnaissance, de compréhension de la famille, de l'entourage professionnel. Comme l'a dit Amandine Poudou, ça touche dans tous les domaines. Donc,
Particulièrement les douleurs, vous pouvez nous en dire un peu plus, l'une ou l'autre, quelles sont les douleurs ? Parce que les femmes qui nous écoutent vont peut-être se poser des questions en disant « Tiens, peut-être, je dois consulter, c'est peut-être de l'endométriose. Qu'est-ce qu'on peut ressentir en tant que femme ? Quelles sont les douleurs les plus marquantes de cette maladie ?»
Alors, c'est là où c'est excessivement complexe parce que les symptômes sont assez diffus, ces douleurs, ce sont des douleurs de règles. Maintenant, l'endométriose n'est pas la seule maladie qui entraîne, pardon, des douleurs de règles. Maintenant, on considère que ça, c'est pas normal et ça, c'est clair. Et là, il faut chercher, il faut pas accepter d'avoir mal. C'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles.
Oui, ça, je pense qu'il faut bien le redire à nos auditrices. C'est-à-dire que ce qu'on entendait vraiment encore au XXe siècle, hein, fin du XXe siècle, t'as tes règles, c'est normal, c'est comme ça. J'ai eu mal quand j'ai eu mes règles. Tu verras, ça va disparaître en vieillissant. Non, ce n'est pas normal d'avoir mal. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas physiologiquement. En tout cas, il faut lutter contre cette douleur. C'est pas possible qu'une jeune adulte de 15 ans soit pliée en deux et n'aille pas à l'école parce qu'elle a mal au ventre pendant ses règles.
Ça, c'est clair. Oui. Et vous parlez donc les symptômes, ils sont très larges. Hein. Donc il n'y a pas que les douleurs au moment des règles. Il y a aussi les saignements. Il y a aussi des fois ces phénomènes d'infertilité, mais qui sont pas systématiques. Je tiens à le dire. C'est pas parce qu'on a l'endométriose que ça va pas du tout aller. Mais ce sont des éléments à prendre en compte. Et c'est là tout le rôle, justement, des acteurs de première ligne, donc les médecins traitants, les sages-femmes, les gynécologues, déjà d'écouter ces patientes, parce que c'est clair que c'est pas dans leur tête, c'est la première chose à...
Et donc, on voit que c'est quand même une maladie assez complexe, parce que pour pouvoir poser un diagnostic, il va falloir vraiment pousser des investigations, parce que, d'après ce que vous dites, effectivement, c'est pas aussi catégorique que ça. C'est pas cette douleur-là, plus ça, égale endométriose. C'est tellement diffus, confus, que deux femmes souffrant d'endométriose peuvent avoir des symptômes quand même relativement différents.
Oui,
c'est ça qui est compliqué.
Oui. Il peut y avoir une douleur. Et encore là, ce n'est pas systématique, mais ça va dépendre de la localisation de la lésion liée à la maladie. Mais ce n'est pas forcément lié à l'extension de la maladie. Et on voit des patientes qui ont des formes qui sont infracliniques, que parfois on a du mal même à voir ou on ne voit pas, et qui peuvent être plus symptomatiques que d'autres où on voit très très bien et on le voit tous les jours. Et il y a des éléments, elles vivent très bien avec ces lésions, on les surveille sans pour autant intervenir systématiquement. Donc c'est vraiment du cas par cas, c'est là où c'est très complexe. Et ça demande du temps dès les consultations, dès l'interrogatoire.
Et au niveau médical et au niveau investigation, quels sont aujourd'hui les progrès scientifiques pour pouvoir diagnostiquer de façon claire ? Est-ce que ça passe par une imagerie comme échographie, scanner ? Est-ce que... Alors bien sûr, il y a l'examen clinique et l'interrogatoire, en tout cas le partage avec la patiente. Mais est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont plus avancées, plus poussées ? Et je ne sais pas, des bilans, des prises de sang, comment ça se passe?
Alors bien. Donc effectivement, déjà il y a des publications qui ont montré effectivement l'importance de l'interrogatoire, donc de bien parler avec la patiente, voir quel est l'impact, comment elle ressent les choses, qu'est-ce qui se passe au quotidien. Ça permet déjà d'orienter énormément. Ensuite, il y a l'examen clinique qui va permettre justement de relier ces éléments. Et il y a aussi les propositions qu'on fait en thérapeutique, donc à savoir avec les antidouleurs et parfois les prescriptions hormonales éventuellement. Il y a effectivement les imageries avec les échographies. Chez les jeunes patientes, donc, ce sont des échographies qui sont par voie abdominale, hein, ce n'est pas par voie endovaginale, pas en premier lieu, certainement pas. Et après, en fonction de l'échographie, il y a les imageries à type d'IRM, donc, c'est-à-dire l'imagerie par résonance magnétique. Au niveau de l'endométriose, on peut voir au niveau des articles scientifiques que la recherche, en tout cas, est extrêmement productive. Quand on tape sur PubMed, on voit qu'il y a une augmentée vraiment forte du nombre d'articles qui paraissent. On a eu, à mon avis, vous voulez en faire référence aussi, la présence de ce qu'on appelle le test salivaire, qui justement diagnostiquerait l'endométriose. Donc c'est un outil qui est super, qui est vraiment, c'est une avancée. Maintenant, sa place doit encore être bien définie dans la prise en charge. On en parlait il y a peu de temps, hein, lors du gala qui avait été organisé par l'association Manoleta et Manon. Ce sont des outils qui peuvent être extraordinaires, mais il faut pouvoir les intégrer dans la prise en charge. Et à contrario, on a l'interrogatoire qui apparaît lui aussi extrêmement intéressant dans le diagnostic de l'endométriose.
Oui, ça c'est primordial. Déjà l'interrogatoire et le partage avec la patiente, c'est déjà c'est la première chose à faire. Hein.
Oui. C'est vraiment ça. On parlait hors antenne des applications, des machins. Mais c'est du cas par cas. Pour le coup, c'est vraiment du cas par cas.
Il ne faudrait pas que le test salivaire vienne justement supprimer cette partie d'échange avec la patiente et dire directement, parce qu'on le sait par manque de temps, des professionnels de santé, de dire « Ah, vous pensez avoir l'endo, on va faire le test et on verra. » Et puis « Ok, c'est positif, voilà. Et on fait quoi ?»
Oui, il y a toute la prise en charge derrière.
C'est ça qu'on craint, en fait. Oui.
Au niveau des âges, à quel âge cette maladie apparaît, l'endométriose? Juste après la puberté, plus tard, vous avez des chiffres?
Alors, ça apparaît toujours trop tôt.
On sait qu'un des facteurs de risque, en tout cas, c'est le fait d'avoir une symptomatologie précoce, c'est-à-dire le fait d'avoir des douleurs, en l'occurrence, souvent dès le plus jeune âge. Maintenant, sa présence, on sait qu'on n'est pas avec des formes complexes et extrêmement étendues d'endométriose. Maintenant, à quel moment, ça, pour le voir, il faudrait faire des analyses histologiques et ça, ce ne serait pas possible, pratique.
Alors, une autre question, dans vrai ou faux, j'ai envie de dire. Est-ce que quand on est ménopausée, on ne peut plus souffrir d'endométriose? Vrai ou faux?
Alors, ça serait super.
On aimerait tellement.
Il y en a qui le disent. Malheureusement, dans la réalité, c'est malheureusement un peu plus complexe là encore. Il faut quand même surveiller, même si on est ménopausée, on a des patientes qui ont des lésions qui évoluent même pendant la ménopause.
Même après la ménopause, ouais. C'est une maladie qui ne s'arrête pas, qui ne se met pas en veille. Hein. C'est des choses qu'on peut entendre.
Oui. On aimerait bien.
Mais non, c'est faux. Donc, oui, pour celles qui nous écoutent, malheureusement, non, à la ménopause, ça ne s'arrête pas. Est-ce que... Évidemment, c'est une maladie quand même qui est hormonodépendante.
Oui.
Oui, complètement.
Oui, 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 mais pas que.
Voilà, tout est complexe dans cette maladie.
Il y a pas mal de facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais effectivement, au niveau hormonal, il y a une sensibilité
Alors, dans les grands symptômes, vous pouvez nous en parler aussi, Manon, douleurs, alors douleurs pelviennes, douleurs comme quand on a ses règles, ça peut être des douleurs aussi pendant les rapports sexuels, une fatigue, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme
alors,
symptômes,
déjà
quoi
sur
se plaignent les femmes?
Déjà, sur la douleur, je voudrais revenir. Moi, je donne toujours, quand je fais des interventions dans les entreprises ou les écoles, c'est quoi avoir mal, en fait? Déjà, ça part de là, parce que faut comprendre pourquoi on a mal et est-ce que ma douleur est très forte ou on a toujours l'impression par rapport à qui, à quoi je compare ma douleur.
Bah, c'est très subjectif,
c'est
la douleur.
C'est très subjectif. Donc là, l'indicateur que je donne, c'est si vous prenez un médicament qui vous est prescrit par un médecin, évidemment, et que ça ne passe pas, on s'inquiète. Voilà, c'est le premier indicateur. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ah, mais moi, je mange des spasfonds toute la journée et ça fait rien. » C'est normal, c'est un spasfond. Maintenant, quand on va vers des anti-inflammatoires, des antidouleurs, est-ce que ça calme ou pas? Et c'est là l'indicateur de la douleur. Ensuite, les premières douleurs, ouais, c'est clairement au moment des règles, un petit peu avant, les deux jours avant, on commence, quand on sent que ça travaille, là on commence à avoir mal. Ça peut durer tout le long des règles, avec parfois des règles très hémorragiques ou au contraire on perd quasi rien. Donc ça veut dire que ça saigne plus haut, en fait, que ça reste dans l'abdomen, donc c'est ce qui fait mal. Après, ça c'est en début de vie de femme. Malheureusement, si on n'est pas bien prise en charge... Moi, j'en étais venue à avoir mal jusqu'à 20 jours par mois. Et ça, c'est plus vivable, en fait. Et
donc, même en dehors des règles.
Exactement. Ce n'est pas... On aimerait bien. On aimerait tellement quand vous nous dites « Ça va, c'est que des douleurs de règles. »
Ça va passer,
nous,
dit, c'est 5 jours.
Voilà, c'est 5 jours de douleur, mais je signe où? Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Donc voilà, après, il y a... au niveau des symptômes, il y a beaucoup de problèmes digestifs. Et ça, on le met pas souvent sur le compte de l'endométriose. Hein, on va directement voir un gastro qui dit « C'est l'intestin irritable, tout ça. »
Donc, un type de ballonnement, de maladie d'estomac?
Alors,
estomac,
on est sur une alternance de constipation, diarrhée.
D'accord,
en fait, on
okay.
va faire des fortes constipations. Et comme le corps veut nous sauver de l'occlusion intestinale, il va libérer, il va décharger beaucoup d'eau. Et c'est ce qui fait qu'on part sur de la diarrhée. Donc, on alterne. Voilà, celles qui se reconnaîtront, elles savent la galère que c'est. Il peut y avoir aussi des vomissements, des nausées dès le matin. Voilà, c'est pas une bonne nouvelle. C'est l'endométriose. Évidemment, le ventre qui gonfle, ça, c'est la partie inflammatoire. Ça va être vraiment un ventre... Moi, j'ai été allée jusqu'à l'équivalent de 5 mois de grossesse. Donc, ça fait des très gros ventres. Hein. On a vraiment l'impression qu'on va imploser, en fait. Et puis voilà, après il peut y avoir des migraines, la fatigue qu'on sous-estime beaucoup, mais on est épuisé. C'est pas la fatigue du lundi matin, j'ai pas envie d'aller travailler, c'est vraiment un épuisement physique et mental, parce que se rajoute à tous ces symptômes l'incompréhension de l'entourage, quoi.
Bon, c'est pas un super...
Pas un super cadeau.
Non.
Non, je le recommande à personne. Hein.
Et donc, vous avez de plus en plus de femmes qui se découvrent, enfin, qui découvrent leur maladie, qui doivent être extrêmement soulagées, qu'on pose enfin un diagnostic, qui se sentent moins seules et qui viennent chercher des conseils.
Oui, on a même avant le diagnostic, on a beaucoup de personnes qui cherchent à... qui ont compris que fallait, pour bien diagnostiquer l'endométriose, fallait être formée. Et en fait, elles viennent nous voir en disant, voilà, qui peut me diagnostiquer, savoir si c'est ça ou pas. Ensuite, elles reviennent avec un diagnostic et là, on leur donne toute la marche à suivre, en fait. Hein. Et forcément, on leur donne beaucoup d'astuces, parce que c'est ça l'association, c'est échanger entre femmes des astuces pour mieux vivre, pour avoir surtout pas brisé nos espoirs et nos rêves. Et on y arrive. En fait, on y arrive super bien. On arrive à se dire, mais en fait, j'ai rien à sacrifier du tout pour l'endométriose. Hein. Elle m'a rien apporté, je vais rien lui donner.
Le monde scientifique avant, vous l'avez dit, Amandine Poudou, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de publications, il y a des recherches scientifiques, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mmh. Et vous êtes, je le rappelle, hein, vous êtes sage-femme et coordinatrice au centre d'endométriose complexe d'Avignon. J'ai vu qu'il avait été quand même, il est classé hautement classé au niveau national. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce centre ?
Oui, alors...
C'est le meilleur.
Donc là, voilà. Non, voilà, je répète quand même que dans le Vaucluse, on est quand même... voilà, il y a un centre qui tient la route, entre guillemets. Et qui, donc, bravo pour ce centre.
Oui, oui, merci. C'est vrai que c'est, oui, c'est extrêmement intéressant et enrichissant de fonctionner au sein du centre de l'endométriose complexe. Moi, je l'ai intégré donc, après le diplôme interuniversitaire dédié à l'endométriose. Il y a un nombre à peu près de 300 chirurgies par an pour endométriose complexe qui sont réalisées et ça représente environ 6000 consultations par an. Ce qui est excessivement intéressant, c'est qu'il y a vraiment cette multidisciplinarité. Donc, c'est une équipe qui travaille beaucoup autour du professeur Donnet, qui publie énormément et qui dédie toute son activité à l'endométriose. Et on se réunit autour des réunions de concertation pluridisciplinaire, effectivement, avec les hyper spécialistes de la maladie pour pouvoir s'interroger sur les différentes prises en charge. Et ça, c'est ça de manière fluide et très fonctionnelle. Et ça, c'est vraiment très précieux.
Comment on peut arriver jusqu'à votre centre? Alors, je parle pas du GPS, hein, je parle plutôt, est-ce que les femmes qui nous écoutent, comment font-elles pour rencontrer justement des spécialistes de ce centre?
Alors, comment ça se passe? Au niveau de l'endométriose, donc, il y a, déjà, ça avait été défini par les hautes autorités de santé depuis 2017 déjà. Donc, il y a une organisation dans la prise en charge du parcours de soins de l'endométriose. Notamment, on retrouve en niveau 1, qui sont responsables, entre guillemets, du diagnostic. Donc, justement, les médecins traitants, les gynécologues, les sages-femmes, on le voit, elles sont vraiment présentes au quotidien, pour pouvoir, justement, arriver à un diagnostic ou du moins pouvoir aider ces patientes, clairement. Et ça, c'est ce que, vraiment, on soutient au quotidien avec des formations, des professionnels, une sensibilisation, aussi grâce à Manon et l'association Manoleta, et également pour que les professionnels qui sont à proximité puissent déjà entendre ces patientes. Ça, c'est la première chose, parce qu'il y a énormément de dégâts, entre guillemets, qui sont faits quand on leur dit que c'est normal, que c'est rien, c'est dans leur tête. Ça, c'est vraiment difficile après à vivre et on perd un peu cette confiance dans les professionnels de santé. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est pouvoir avoir un bon contact. Ensuite, quand il y a un diagnostic qui est réellement posé et que soit on a une résistance aux traitements qui ont été mis en place, soit dans des cas bien définis que ces professionnels connaissent, alors ils orientent les patientes vers des gynécologues qui, eux, sont dédiés et qui sont spécialisés dans l'endométriose, soit au niveau médical, soit au niveau chirurgical. Au niveau médical, c'est ce qu'on appelle le niveau 2. Au niveau chirurgical, c'est là où se situe l'endométriose complexe ou alors quand il y a des traitements qui sont nécessaires ou dans certaines circonstances bien particulières, notamment dans des phénomènes d'infertilité, quand la maladie s'étend, quand il y a un impact potentiel sur les organes avoisinants. Alors là, ça fonctionne d'ailleurs. Eh bien, ils adressent la patiente et elle demande un rendez-vous au niveau du centre. Mais ça, c'est dans un monde parfait.
C'est la théorie.
Concrètement, il y a cette voie-là et ça fonctionne. Il y a des professionnels et notamment les sages-femmes vraiment qui entendent bien et qui disent non, c'est pas normal, il faut voir. Alors les patientes sont adressées ou alors elles-mêmes nous disent écoutez, il y a une discordance entre ce que je ressens et parfois les imageries et on relit les imageries, on réétudie chaque dossier dans leur... Dans leur spécificité et en fonction, eh bien, on aide les patientes. Donc, c'est vraiment du cas par cas. On ne peut pas, là, pour le coup, mettre en place des algorithmes et ce n'est pas forcément nécessaire. Enfin, ce n'est pas forcément lié à l'imagerie, c'est aussi lié aux symptômes, à plein d'éléments, à leur projet.
Oui, bien sûr, on a vu que cette maladie était tellement complexe qu'on ne peut pas faire d'algorithme clair et précis en disant ça, c'est ça, on va faire ça.
Ça aurait été en tout cas beaucoup plus efficace et puis ça aurait été reproductible. Mais non, il faut vraiment...
Et justement, vous parliez de chirurgie. Peut-être que pour celles qui nous écoutent, c'est vrai que c'est une maladie qui évolue peut-être en plateau et peut y avoir un envahissement justement de ces cellules de l'endomètre qui, vous l'avez dit, qui se répercutent sur des organes avoisinants. Ça peut aller jusqu'à la vessie comme le rectum, l'intestin, des choses comme ça.
Oui, Oui, on peut avoir donc ce qu'on appelle des nodules parfois qui peuvent occasionner des douleurs, notamment dans leur vie intime ou au niveau de la vessie également. Et ça, c'est lié à des symptômes qu'elles ressentent ou pas forcément en fait. Hein. Donc c'est ça qui est très difficile à.
Donc la chirurgie n'est pas pour la chirurgie n'est pas l'acte miracle.
Non.
Hein. Ça, il faut bien le dire aussi.
Et ça, c'est clair.
C'est pas je vais enlever l'utérus et ça va aller mieux. Hein.
Oui, ça, c'est un message excessivement important. Oui, effectivement. Et c'est d'ailleurs pour ça, justement, qu'il y a des réunions de concertation pluridisciplinaires, qu'il y a beaucoup de réflexions en fonction des projets de la patiente et de ce qui peut lui être proposé sans pour autant s'accompagner de plus d'effets incommodants que ce qu'elle vit au quotidien. Le but, c'est vraiment de proposer une solution qui va l'aider et qui va permettre de retrouver une vie, entre guillemets, normale.
Eh bien, je vous propose de faire une courte pause musicale et puis nous nous retrouvons juste après. Nous sommes de retour sur le plateau pour parler de l'endométriose avec Madame Amandine Poudou, sage-femme au CEC, Madame Manon Barba de l'association Manolita et Madame Odile Gros de la Mutualité française. Alors, on a déjà bien parlé de l'endométriose, mais peut-être faut-il rappeler que l'endométriose, ce ne sont pas des cellules de l'endomètre qui vont migrer ailleurs, mais que c'est un tissu peut-être différentiel.
Semblable. À l'endomètre.
Voilà.
On accentue sur le semblable parce que il y a plein de voilà quand on dit on tout à l'heure on disait mais en fait enlever l'utérus ça sert à rien. Oui parce que elle continue même s'il n'y a pas d'utérus. Il y a aussi la grossesse. C'est pas vrai de dire qu'une grossesse a guéri l'endométriose. Ça serait
ah donc
bien.
Justement parlons de la grossesse. Alors que se passe-t-il pendant la grossesse chez une femme qui est porteuse de cette maladie?
Non ça je pense qu'Amandine vous le sait.
Madame Poudou.
Alors pendant la grossesse il y a effectivement une augmentation du taux de progestérone et donc on peut avoir effectivement certains symptômes qui sont un petit peu mis comme au repos en fait. Mais il n'empêche qu'on continue quand même la surveillance et qu'il y a il y a des images. C'est là où c'est très important. Justement, j'ai écrit un article il y a peu de temps dans les revues dédiées aux sages-femmes en disant qu'il faut quand même que ces patientes aient une surveillance qui soit adaptée en lien justement avec des centres et des dédiés. Et ça, c'est vraiment un élément qu'il faut avoir en tête en tant que professionnel et en tant que patiente, simplement être en lien avec des professionnels qui connaissent bien la pathologie.
Donc on rassure toutes les femmes qui sont peut-être porteuses de cette maladie et qui nous écoutent. On peut tout à fait avoir un enfant, en tout cas avoir une grossesse, même quand on a de l'endométriose. Il suffit d'être bien accompagné médicalement.
Oui, il n'y a pas systématiquement, l'endométriose n'est pas systématiquement associée à une infertilité. Maintenant, quand on a des douleurs, et notamment dans sa vie intime, des douleurs au moment des rapports, ça compromet aussi ce mécanisme de conception. Alors, il faut en parler aux professionnels de santé et on en revient toujours à l'importance de l'interrogatoire au moment de la consultation. Il faut consulter, il faut en parler.
Alors, quels sont les traitements médicamenteux aujourd'hui contre l'endométriose ?
Alors, on est sur des traitements des symptômes. On retrouve donc notamment la douleur, hein, qui est quand même un élément qui revient, en tout cas, qui revient assez bien. Il y a déjà les prises d'antidouleurs qui sont vraiment importantes, donc notamment les médicaments de palier 1, comme le paracétamol, donc le dafalgan, et les anti-inflammatoires, dans la mesure où on n'a pas d'ulcère à l'estomac ou d'allergie. Et c'est très important donc, de les prendre justement avec un rythme régulier, notamment un gramme toutes les 6 heures, pas plus de 3 à 4 par jour. Il ne faut pas non plus excéder sur le nombre de jours. Mais ça, c'est vraiment, ça fait partie des éléments qu'on aborde en consultation avec, j'en reviens toujours, les professionnels de santé de première ligne et qui justement informent sur ces éléments. De sorte qu'on démarre déjà avec des bonnes bases, parce que des fois les patients disent « Ah non, mais ça ne marche pas du tout ». Mais on reprend la prise et on reprend la manière dont c'est pris, à quel moment. Ça doit vraiment faire l'objet d'un...
Une éducation médicamenteuse, en fait, c'est ça, c'est...
Oui, c'est toute l'éducation thérapeutique. C'est vraiment, et ça, c'est un volet sur lequel les sages-femmes, j'y reviens, mais sont particulièrement aussi sensibilisées, puisqu'on a dans ces mécanismes de prévention, notamment pour la santé des femmes. Et on est très attentive à ces éléments.
Est-ce que c'est une maladie héréditaire ? On pourrait se poser la question. Est-ce que si ma mère souffre d'endométriose, j'ai de forts risques d'avoir cette maladie aussi ?
Alors, en pratique, ce qu'on voit... il y a un facteur d'hérédité, mais ce n'est pas systématique là encore. Ce qu'on voit concrètement, c'est que les mères qui ont eu de l'endométriose, ou en tout cas qui ont eu un diagnostic tardif, vont intervenir très rapidement dès que leurs filles vont évoquer des symptômes qui vont les alerter. Donc on voit très bien qu'il y a une réactivité évidemment beaucoup plus importante chez les mères. Il y a cette notion d'hérédité, mais pas systématiquement. Les facteurs qui entraînent la présence d'endométriose, ou qui, c'est très très large et c'est multifactoriel.
Madame Manon Barbin, vous êtes fondatrice de l'association Manoleta. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association et pourquoi vous êtes venue à l'idée de fonder cette association ?
Parce que je m'ennuyais. Non, évidemment, parce que moi je suis moi-même atteinte d'endométriose. J'ai été prise en charge au CEC de manière assez urgente, parce que j'en avais partout, que j'avais un nodule qui avait explosé, donc c'était extrêmement douloureux. Du coup, j'ai été prise en charge, j'ai eu toute la prise en charge aussi avec la pilule, avec les anti-inflammatoires, les antidouleurs.
Ah oui, parce que, excusez-moi, vous coupe, on n'a pas parlé de ça justement. On a parlé des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Il y a aussi évidemment la pilule contraceptive, c'est-à-dire une hormone qui peut aussi soulager dans certains cas.
Principalement progestative,
oui.
Qui va arrêter les règles et qui peut soulager. Après, je me permets, Amandine Poudou, il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc on met du temps à trouver la pilule qui nous convient et il faut prendre ce temps-là. C'est aussi du temps où on commence à écouter son corps, à comprendre ce qui se passe. Donc on est beaucoup plus attentive. Et puis, la pilule, c'est pas non plus le remède miracle, mais ça peut aider. Enfin, notamment moi, ça m'a beaucoup aidée à la sortie de la chirurgie. J'avais l'impression de repartir à zéro et d'être protégée par la pilule. Voilà, c'est pas aussi ça, mais psychologiquement, on a l'impression en tout cas d'avoir cette, ce, cette bonne prise en charge.
Donc là encore, c'est au cas par cas. Elles peuvent être proposées à visée thérapeutique, et effectivement, en sachant que les effets secondaires sont imprédictibles. Donc c'est là où c'est, encore une fois,
toujours assez... les médicaments, il y a toujours cette balance bénéfice-risque.
Voilà, donc c'est vraiment c'est à voir, et c'est vraiment une réflexion et un échange qu'on doit avoir avec son professionnel de santé.
Oui, et puis il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre la pilule, et il y a des personnes qui veulent faire un bébé, donc il faut l'arrêter.
Exactement.
Normalement, pour l'instant, on ne sait pas faire avec. Donc voilà, ce n'est pas le remède miracle, et ça ne va pas forcément à tout le monde. Moi, ça m'a convenu 5 ans après la chirurgie, et après j'en avais marre, donc je l'ai arrêté. Et j'avais très peur d'avoir mes règles, et en fait, ça va très bien. Je n'ai vraiment aucune douleur. Mais je continue la prise en charge, c'est-à-dire que je vois ma sage-femme. Moi, j'ai choisi une sage-femme. Je vois ma sage-femme une fois par an. Je suis super sérieuse là-dessus. Au quotidien, je prends soin de moi. J'éloigne toutes les personnes toxiques de moi. Bizarrement, ça va beaucoup mieux.
Et on rappelle que les sages-femmes peuvent tout à fait faire tout ce qui est suivi gynécologique d'une femme, je le rappelle. Hein. Il n'y a pas que le gynécologue.
Et puis, nous, en tout cas, dans l'asso, on les recommande plus parce qu'elles viennent plus aussi à nous.
Et alors, justement, l'association...
Et du coup, j'en venais à l'association. Et du coup, après m'être bien remise, je suis allée voir le professeur Donné et je lui ai dit...
Du CEC.
Voilà, du CEC. Je lui ai dit, je pensais à une asso. Il m'a dit, oui, faites-le, il faut. Et moi, je vous accompagne. Donc, ça fait maintenant 6 ans. Que j'ai créé l'asso et que le CEC nous accompagne. Du coup, c'était pour répondre surtout à la demande que je voyais sur les forums, tout ça, de « Mon Dieu, je viens d'apprendre que j'ai endométriose, est-ce qu'il va falloir m'enlever l'utérus ?» Et je voyais tous ces messages et ces femmes en détresse et je me disais « Mais c'est pas possible, quoi. Il faut trop qu'on se retrouve, qu'on aille boire un verre ensemble et que je leur dise qu'il y a des... Moi, j'ai trouvé des solutions de prise en charge. Il faut que je leur dise. » Et en fait, au départ, c'était vraiment que ça, aller boire un verre. Sauf que quand vous débarquez dans un bar à 15, donc j'ai commencé à prendre des salles, tout ça, pour faire des groupes de parole. Et en fait, c'est les professionnels de santé qui sont venus à notre rencontre en me disant nous, on aimerait nous former, mais en fait, il n'y a rien qui est proposé. Donc là, on s'est tourné vers le docteur Olivier Donné, et lui, maintenant, donne des formations. Aux professionnels. Voilà, c'est l'asso qui organise la formation et c'est lui qui l'a...
Alors les professionnels, c'est les sages-femmes, les gynécologues, les médecins traitants.
On n'a jamais vu un médecin traitant. Je t'ai passé un message. On n'en a jamais vu un et on a vu qu'une seule gynéco. Voilà, dans nos formations.
Donc c'est plutôt les sages-femmes.
C'est les sages-femmes, les infirmières beaucoup. On a des pharmaciennes aussi. On va avoir tout ce qui est médecine douce, donc sophrologie, réflexo, que j'oublie personne. J'ai aussi une coach sportive. En fait, nous, quand on rencontre des professionnels, on demande pour qu'ils soient partenaires de l'association, on exige qu'ils aient suivi la formation. Parce qu'on ne peut pas recommander ce professionnel, cette professionnelle à une femme, en sachant qu'ils n'y connaissent rien, c'est impensable pour nous. Donc nous, les professionnels, on les rencontre, parfois on les teste. Donc je vais donner de ma personne pour vous recommander les meilleurs. Ensuite, on leur demande de faire la formation, on leur demande d'être présents à au moins un événement par an. Comme ça, on les revoit, on réactualise et surtout, on est présente pour eux aussi, pour eux et elles, toute l'année. Ça arrive très souvent qu'on ait des sexologues, des sages-femmes qui disent elle a fait cet examen, ou alors elle ne veut pas faire cet examen, qu'est-ce que je peux donner en échange, qu'est-ce que je peux faire. Là, je ne sais plus vers qui l'orienter parce que je n'arrive pas à calmer ses douleurs, qu'est-ce que je peux faire. Donc, c'est vraiment un travail en commun. Nous, on représente les femmes atteintes, on représente les malades, mais on représente aussi les professionnels. Et là, petit coup de gueule, préparez-vous. On représente aussi les professionnels qui demandent plus de moyens, en fait, parce qu'on veut qu'il y ait un investissement vrai dans la recherche de l'endométriose pour pouvoir proposer autre chose et qui aide vraiment. Parce que là, tout ce qu'on s'est dit, c'est des astuces. Ça peut ne pas aller, ça peut aller, on verra. On verra le cycle prochain si ça va mieux. Non, on ne peut plus raisonner comme ça.
Puisque pour l'instant, c'est surtout des traitements du symptôme, mais il n'y a rien pour la guérison de cette maladie.
Exactement. Donc nous, on veut la guérison. En fait, ce n'est pas être trop exigeante, je pense. Vous êtes d'accord, Amandine Poudou ? On veut la guérison.
Bah, scientifiquement, quand même, Madame Amandine Poudou nous a dit qu'il y avait de plus en plus de spécialistes qui se penchaient sur ce dossier.
Oui, hein, on a
ça avance.
On a fait partie notamment des essais cliniques concernant des molécules qui sont connues, mais en tout cas dans l'utilisation de l'endométriose, qui s'apparenterait à moins d'effets secondaires et une efficacité. Maintenant, oui, dans le traitement des symptômes, donc ça avance. Hein. C'est vrai que d'ailleurs, on le voit dans les congrès internationaux. Il y a beaucoup d'activités, on va dire, à ce niveau-là, mais ça fait déjà pas mal d'années.
Oui, parce que l'étiologie n'est encore pas connue. On ne sait toujours pas pourquoi.
Non, il y a plusieurs facteurs. On a des théories, on a des éléments. On sait qu'il y a des facteurs, en tout cas, qui sont des facteurs de risque. Donc, on parlait de l'hérédité tout à l'heure. Donc, ça, c'est un élément à prendre en compte. Il y a aussi s'il y a la présence de malformations utérines, notamment. Il y a aussi tout ce qui est des cycles courts, les règles précoces, les grossesses tardives aussi, ou le fait de ne pas avoir eu du tout de grossesse. Et le fait, ça, j'en ai parlé tout à l'heure, le fait d'avoir des symptômes précocement. Donc justement, d'où l'intérêt, même chez ces jeunes patientes, de les entendre et de les surveiller malgré tout.
Alors on parle beaucoup des femmes, évidemment, dans l'endométriose. Mais est-ce qu'un homme peut avoir de l'endométriose ?
Alors, il y a des cas extrêmement rares. Hein. Ça reste quand même une maladie.
Non, il faut le dire, parce que comme ça, on sera reconnus. Parce que là-haut, ils auront les chocottes de l'avoir. Oui, il y a des hommes qui ont l'endo, faites attention.
Il y a avec les sécrétions notamment d'œstrogènes hein, qu'on peut retrouver à certains endroits, mais c'est extrêmement rare. On considère en tout cas que c'est une pathologie pour le coup gynécologique féminine. Là,
mais ça peut exister, en fait ça peut exister, c'est pour ça que je pose la question naïvement.
C'est pas exclu, mais c'est extrêmement rare dans des cas bien 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 particuliers.
Oui, après il y a des cas exceptionnels, n'ayez pas peur messieurs de la... On les voit qui flippent.
Oui, parce que c'est un peu naïf comme question, mais parce que on sait qu'il y a de plus en plus d'hormones dans ce qu'on mange, dans ce qu'on respire, dans tout ça. Donc effectivement, on peut y avoir aussi une transformation de la physiologie de l'homme.
Oui, là, bon,
qui se féminise.
Hein. Alors pas féminise, mais bon.
L'angoisse pour certains.
Là, tout de suite, on a ça, c'est panel un panel d'auditeurs. Qui...
Bon, alors on revient plus sérieusement.
Ça pourrait faire l'objet de recherche, je pense que ça intéressant.
Voilà, on revient sur la femme et l'endométriose. Donc l'association, évidemment, c'est une porte d'entrée, déjà pour les professionnels et pour les femmes qui en souffrent.
Oui.
Donc vous voyez beaucoup de patientes. Vous avez un chiffre, ça représente quoi?
Oui, oui. Là, j'ai fait mes chiffres 2023. Donc, j'ai vu un peu plus de 950 patientes. Enfin, patientes. Du coup, femmes malades, elles ne sont pas forcément encore patientes de quelqu'un. Et on a sensibilisé à peu près 1300 jeunes dans le Vaucluse. Voilà. Et puis là, on est en avril et j'ai déjà... sensibiliser 350 jeunes, donc je pense que les chiffres vont augmenter, c'est bien. Et puis voilà, ça permet surtout de montrer aux femmes qui souffrent qu'on est là. Moi, mon objectif, c'est la visibilité et c'est ce que vous nous permettez aujourd'hui, je vous en remercie. C'est vraiment de pouvoir leur dire qu'il y a des choses à faire, qu'elles ne restent pas seules dans leur coin absolument, qu'elles ne pensent pas, qu'elles ne se sentent pas abandonnées. Qu'elle pense que personne ne fait rien pour l'endométriose en France. Si, on est beaucoup d'assos à se battre, on est beaucoup de femmes qui refusent la fatalité de devoir souffrir. Hein, c'est pas parce qu'on est femme qu'on doit souffrir. Donc voilà, c'est vraiment important qu'on soit visible et on fait des projets, beaucoup de projets.
Alors sur le territoire du Vaucluse,
tout le Vaucluse.
Tout le Vaucluse.
Après, voilà, l'endométriose n'ayant pas de frontières, je n'en ai pas. Donc, ça m'arrive de dépasser les frontières vauclusiennes. Mais oui, je vais là où on me demande, en fait. Hein. Je ne fais pas de chichi. Hein.
Et comment, pour les femmes qui nous écoutent, comment on peut vous contacter si certaines femmes sont intéressées?
Alors, par les réseaux sociaux, donc Endométriose Vaucluse ou Manoleta 84. C'est à peu près ça sur tous les réseaux. Et puis par téléphone, par mail, manoleta84@gmail.com. Voilà, c'est... si je ne réponds pas, il ne faut pas s'inquiéter. Vous laissez un message, je vais répondre. Des fois, je suis en radio, en fait. Et je ne peux pas répondre dans l'instant. Mais voilà, on est extrêmement réactive parce qu'on sait que dans la douleur, on ne patiente pas, on a du mal à patienter. Donc, on essaye de répondre au plus vite à ces femmes. En général, en 15 minutes, on leur répond.
Madame Gros ?
Ah oui, au niveau de... Donc, je représente donc la mutualité. Je veux dire qu'on était ravis de donner cette visibilité, cette possibilité de visibilité aujourd'hui et d'accompagner à la fois d'être partenaire de l'association et puis de pouvoir apporter un accompagnement, entre guillemets, aux femmes qui écoutent cette émission aujourd'hui. Mais moi, j'avais quelques questions parce que quand on parle des médicaments, au bout du compte, ce sont des médicaments qu'on utilise depuis fort longtemps. Alors, des jeunes filles qui ont parlé de règles douloureuses au XXe siècle, mais à qui on donnait des antidouleurs et la pilule pour qu'elles souffrent moins, c'est quelque chose qui se fait depuis pas mal d'années. Alors aujourd'hui, ce qui est important, c'est justement l'écoute, la visibilité et le fait qu'on en parle. Ça permet aussi à la recherche d'avancer et à trouver d'autres solutions thérapeutiques, je suppose. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce qu'on entend des réponses médicamenteuses, sinon qu'on les prend mieux en charge, mieux, mais il n'y a pas encore de grandes nouveautés dans ces recherches médicamenteuses. Et puis j'avais une autre question sur la prise en charge. Ben voilà, je vous laisserai me répondre. La prise en charge de la maladie, d'après ce que j'ai pu lire ou entendre, c'est vraiment pluridisciplinaire. Et par exemple aussi au niveau psychologique, bien entendu, parce qu'il faut accompagner quelqu'un qui souffre, pas parce que c'est dans la tête, mais exactement, parce que quand on souffre, on a besoin aussi d'aide. Et aussi au niveau inflammatoire, il me semble que la nutrition joue un rôle et qu'il peut y avoir des nutritionnistes ou des diététiciennes qui peuvent accompagner aussi sur un certain niveau.
Oui, donc là, c'est tout l'intérêt justement de la multidisciplinarité. Hein. C'est à tous les niveaux et vous parliez autant au niveau nutrition que... Donc c'est vrai qu'au niveau du centre, on a les hyper spécialistes de la pathologie parce qu'on est dans un contexte bien défini. Manon est une ressource qui est très très importante et qui coordonne aussi les professionnels de santé. Et d'ailleurs, c'est ce que justement on veut mettre en place et rendre accessible aux patientes par les éducations thérapeutiques des patientes qui sont soutenues par les agences régionales de santé et qui vont permettre justement d'aborder tous ces sujets avec les patientes. Et parce qu'actuellement, c'est super, il y a plein d'informations, mais des fois tellement qu'on s'y perd un peu. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau du centre, si vous allez sur notre site, on a mis pas mal d'éléments pour que les patientes puissent déjà avoir des données qui sont vérifiées et qui sont issues de nos recherches, enfin des articles scientifiques validés. Nous, donc ça permet de...
On est obligé de faire ça, hein. On éduque les patientes à quelle est la fake news et quelle est la bonne news, parce que ça part de là aussi. C'est bien quand il y a une maladie qui était dans l'ombre de la mettre en lumière, mais après il y a tout et n'importe quoi qui se dit, et justement on travaille ensemble. Moi ça m'arrive très souvent d'appeler le CEC, de dire là il y a ça qui circule, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est terrible quoi, parce qu'en plus on a de la mauvaise information qui circule.
Oui, donc il y a pas mal d'éléments, donc c'est pour ça que ça bouge.
Et puis,
vous remercie.
Vous avez parlé aussi du projet, évoqué le projet éducation thérapeutique patient, l'ETP. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Alors, c'est l'association Endomind qui a créé ça, qui est une association nationale avec qui ça nous arrive de travailler parce qu'on est solidaires. Et du coup, on a envie de mettre ça en place dans le Vaucluse avec Amandine Poudou et le CEC. C'est en fait c'est un peu ce qu'on fait déjà au sein de l'asso, c'est-à-dire des groupes de parole sur des thématiques spécifiques. Sauf que là, la différence, c'est qu'on pourra être accompagné d'un professionnel formé à l'endométriose ou d'une professionnelle. Et du coup, là, on a déjà fait notre programme, on peut le dire. On s'avance. Allez, voilà, on le dit.
Allez.
Exclusivité totale.
Avant-première,
sur RTVFM. en fait, ça va être, il va y avoir 10 ateliers. Il va y avoir qu'est-ce que l'endométriose, qu'est-ce que la douleur. Donc on repart sur ces bases-là d'informations. Ensuite, quels sont les traitements que je peux prendre, qui sont à ma disposition. Et ensuite, ça va être tout ce qui est mon assiette, donc au niveau de la diététique,
voilà,
le sport, voilà, l'activité physique. Je préfère que sport, parce que voilà, c'est dur de faire du sport quand on a de l'endométriose, mais on peut faire de l'activité physique. Il va y avoir aussi tout ce qui est sophrologie, au niveau de la respiration, de comprendre comment ça fonctionne, et ça, vraiment, ça aide dans la gestion de la douleur. Il va y avoir, qu'est-ce que j'oublie ? Diététique, sophro, sport, tout.
L'émotionnel.
Les proches. On va faire un groupe avec les proches qui comprennent aussi ce que c'est la maladie et psychologique, émotionnel, exactement.
Ouais. Parce que oui, pour ces femmes qui...
Sur la douleur avec un algologue.
Pour ces femmes qui souffrent d'endométriose, c'est peut-être parfois compliqué de se faire comprendre par son entourage, que ce soit son mari, ses enfants, ses collègues
déjà,
de travail. C'est quelque chose qui revient souvent au sein de l'association.
Oui, déjà, je vais vous mettre dans la situation. Vous allez chez votre médecin traitant. Vous dites, j'ai mal, j'en peux plus. Je fais des arrêts maladie, mais là, mon patron, il m'a convoqué. J'arrive pas, j'avance plus, je suis épuisée. Ok, vous n'avez plus de rapport avec votre conjoint ou votre conjointe parce que c'est douloureux. Donc la tension, quoi, un petit peu dans la famille. Les dimanches, vous ne pouvez pas être au repas de famille. Et du coup, bah, tout le monde se dit, oh là là, elle ne se bouge pas.
Elle est toujours malade.
Elle est toujours malade, elle a toujours un pet de travers. Voilà. Et vous allez voir votre médecin traitant qui dit, oh non, mais ça, l'endométriose, c'est dans la tête. C'est le truc à la mode en ce moment, arrêtez. Imaginez cette
femme.
C'est
ce qui se dit encore,
oui,
pour aller
vraiment,
par la part de médecins traitants.
Le quotidien.
C'est encore
des
dans
femmes.
La tête.
Ouais. Et où c'est à la mode. Ça aussi, on adore. Donc, on a prévu l'année prochaine un petit défilé d'endométriose. Vous allez voir, c'est à la mode. donc, voilà, c'est ces femmes-là, elles arrivent avec ces discours-là. Mais on ne peut pas bien vivre. On ne peut pas trouver des solutions pour prendre en charge sa maladie.
Il y a une grosse culpabilisation.
Énorme. Énorme. Et la plupart du temps, on ne va pas se le cacher. Elles mettent du temps à nous appeler l'asso parce que demander de l'aide, hein, c'est compliqué. Donc la plupart du temps, elles serrent les dents et puis elles y vont. Voilà. Et un jour, la maladie, elle a continué de bosser, hein, pendant ce temps-là. Et elle éclate, en fait. Elle explose. Et là, c'est le corps qui lâche. Et nous, on ne veut pas que ça en vienne là. C'est pour ça qu'on sensibilise dans les écoles, auprès des lycéens, des lycéennes... parce qu'on ne veut surtout pas qu'elles traversent ce qu'on a traversé.
Oui, pour les jeunes filles, c'est important de savoir que ça existe et toute cette,
et après,
cette
c'est
parole
important.
Qui est libérée.
C'est important et je vous assure que tout le monde n'est pas en panique. Je n'ai pas entendu de sage-femme me dire « Mon Dieu, il y a la queue devant mon cabinet depuis que tu as parlé aux jeunes filles ». C'est parce qu'il y a aussi cette idée de faut pas trop en parler parce que vous allez les faire paniquer, vous allez les faire stresser. Moi, j'ai eu une prof hein, qui m'a dit oula, attention, si vous dites que les douleurs pendant les règles, c'est pas normal, lundi matin, elles sont toutes chez le médecin. Et alors, c'est pas fait pour ça, un médecin. Donc, allez-y toutes si vous pensez avoir de l'endométriose, si vous avez mal pendant la période des règles ou de l'ovulation, que vous avez du mal à faire un enfant. Demandez de l'aide. Les professionnels sont là pour ça.
Oui, mais c'est quelque chose qui est quand même bien ancré dans notre société. Quand on est une femme et qu'on a mal pendant ses règles, c'est normal. Donc, je répète, non, ce
non,
n'est pas
non,
normal.
On dit, hein,
non, ensemble, non, il faut non. chercher. Il faut chercher. Il ne faut pas hésiter à chercher, à se documenter, à...
Appeler non, l'association.
Exactement.
Ouais, mais oui, c'est vraiment important. Et en plus, je me dis, c'est tellement horrible de savoir qu'il y a des femmes isolées qui vivent tout ça, alors que on pourrait les aider. Et c'est, moi, je sais tellement ce que c'est d'être dans sa salle de bain, de pisser le sang dans sa baignoire, de s'évanouir dans son propre sang. Je sais ce que c'est. Et je ne veux pas, aucune femme ne doit vivre ça.
Oui, parce que vous êtes passée par là. Et
ouais.
Donc forcément, avec cette association, c'est votre
Mais moi, j'ai
une
chance énorme, c'est que ma famille m'a toujours cru, m'a toujours amenée aux urgences, n'a jamais trouvé que je faisais semblant. Moi, c'est ma force. Mais c'est loin d'être le cas de toutes. Donc je veux leur dire, voilà, je ne vais pas vous prêter mes parents. ça, je les garde. Mais j'ai des astuces, j'ai ce qu'il faut.
Donc les thérapeutiques, on en a largement parlé. Est-ce que au niveau du CEC, du Centre d'endométriose complexe d'Avignon, il y a des projets futurs, il y a des choses qui vont se mettre en place
Oui, hein, pour la suite, c'est vrai qu'il y a une organisation de la filière, notamment avec le réseau EndoSud, hein, et avec la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Après, oui, il y a des études cliniques justement qui sont en place et des publications qui vont sortir sur des molécules aussi qu'on attend, hein, en France aussi. Donc on est dessus, on y travaille au quotidien.
Est-ce que par rapport à d'autres pays, il y a des pays qui sont peut-être plus avancés, qui ont une recherche plus ciblée sur cette maladie ?
Il y a quand même, au niveau international, on le voit, en tout cas au niveau des publications scientifiques, mais ça dépend toujours en fait des centres de recherche ou même de la formation à l'origine, en fait, hein, même des médecins, tout ça. C'est vrai que dans certains pays nordiques, c'est beaucoup plus enseigné, ou en tout cas, ça fait partie de leur formation de base. Après, c'est vrai que ça dépend beaucoup des centres de recherche qui sont en place.
Oui, parce que je pensais Europe, États-Unis, enfin des pays qui ont les moyens de recherche. Il n'y a pas trop de différence entre l'Europe et les États-Unis.
À ma connaissance, il n'y a pas une différence extrêmement
significative. Nous, on est en lien avec pardon.
Oui, au niveau des congrès internationaux, c'est beaucoup plus des chirurgiens ou des qui avancent ou des chercheurs. Maintenant, est-ce que c'est lié à un pays ça dépend un petit peu.
Nous, on est en lien avec des associations à l'international. Ça s'appelle Worldwide Endometriosis, pardon pour mon franglais. C'est une association qui réunit toutes les associations du monde. Donc, on peut, une fois par an, se voir entre nous. Et du coup, j'y mets ma maman qui est bilingue, parce que moi, voilà, je ne vous ferai pas trop des super rapports. Mais du coup, on voit que la situation, pour les patientes, le ressenti est le même dans le monde entier. Et ce qui est assez fou aussi, c'est que les chiffres sont quasiment les mêmes. On est 1 à 2 sur 10 dans le monde entier. Ça fait à peu près 200 millions. Et ça ne bouge pas selon les pays. Donc moi, je propose qu'un pays fasse la différence, devienne la star du monde. Je propose ça à nos représentants, hein, en France. Mais bon, ils ne sont pas tentés par ce challenge.
Il y a des congrès internationaux spécial endométriose.
Oui, hein, il y a des sociétés mondiales dédiées à l'endométriose, notamment la World Endometriosis Society. Et il y a des congrès. Il y en a d'ailleurs très prochainement. Oui, il y a beaucoup, mais depuis très 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 longtemps déjà.
Depuis des années ?
Oui.
Ah oui ?
Oui, c'est vraiment, oui. Hein. Notamment, Monsieur Donnet, il a réalisé une thèse en sciences médicales sur le sujet il y a déjà pas mal d'années. Hein. Mm. Donc oui, c'est vraiment un des éléments de recherche qui est connu, mais sur lequel on a... Des éléments malheureusement connus, mais des éléments inconnus.
Après, les choses avancent. Moi, je veux que les femmes, elles entendent, ça avance. Je sais que ça avance pas aussi vite que la maladie ou que les douleurs, mais ça avance. Il y a un jour où, c'est vrai, hein, il y a un jour où il y a quelqu'un, un président par exemple, une présidente, qui va investir et ça va vraiment bouger. Évidemment, on a besoin d'argent, que ce soit les assos, la recherche, on en a besoin. Mais ça, il y a des gens qui se mobilisent. C'est important qu'elles l'entendent du fond de leur toilette là, de douleur, qu'elles entendent qu'il y a des gens qui font des choses, qui travaillent dessus.
Et puis qu'elles ne sont pas seules, puisqu'il y a des associations. Mmh. Ici, dans le Vaucluse, il y a Manoleta.
On est là.
Et puis, il y a quand même le CEC, qui est un centre quand même très réputé au niveau national. Donc voilà, je voulais dire hip hip hip.
On a de la chance, donc autant profiter de vos talents.
Mais c'est vraiment important d'avoir un fonctionnement au cas par cas et de ne pas avoir des solutions comme ça, qui peuvent même parfois être très invasives, hein, qui peuvent être proposées. Vous parliez d'enlever l'utérus, c'est vraiment du cas par cas et ça nécessite des réelles réflexions parce que ça aussi c'est le risque entre guillemets, oui, de vouloir trop, et il faut aussi pouvoir aider et accompagner ces patientes sans pour autant leur imputer après une qualité de vie qui pourrait être moins bonne.
Oui, parce que
ce qu'on a été proposé.
Ce qu'on a dit depuis le départ, c'est quand même hormis les douleurs, c'est très handicapant.
C'est
pour,
ça.
Pour
c'est...
travailler, pour sa vie de famille.
Tous les domaines.
Pour, voilà, il n'y a pas que les douleurs. Hein.
Bien sûr. Mais c'est en ça que l'ETP, je pense, va être vraiment efficace.
Alors l'ETP, c'est
l'éducation thérapeutique aux patientes. Mais je mettrai un hashtag ETP. c'est ça qui va être vraiment utile, c'est de reprendre les bases, en fait. Et quand on reprend les bases de l'information... On ne peut pas se faire avoir, entre guillemets. On ne peut pas nous prodiguer des soins qui ne sont pas adaptés. On ne peut pas rencontrer les mauvaises personnes. Donc, c'est important de s'éduquer, vraiment. Et nous, on a la chance d'avoir le CEC qui se mobilise pour ça. Et il faudra en profiter. C'est gratuit pour les femmes diagnostiquées. Donc, et si vous ne l'êtes pas, venez me voir, on s'arrangera. non, je rigole, l'ARS, on va faire ça bien. Mais c'est important vraiment de participer à ces ETP qui, on espère, commenceront septembre, un petit peu avant. On ne sait pas, on espère.
Oui.
On attend la réponse de l'ARS.
En tout cas, pour celles qui, celles qui nous écoutent, voilà, vous n'êtes pas seules. Il y a des professionnels, il y a des associations, il y a des gens qui vous écoutent, il y a des gens qui peuvent vous aider. Oui. Voilà, il faut se rapprocher de
exactement,
ces structures.
Exactement, ne restez pas seules, vraiment.
Exactement.
Ça sera le mot de la fin.
Et faites-vous confiance.
Oui. Ça sera le mot de la fin. Je vous remercie. Merci.
Merci à vous.
Merci Manon Barbin de l'association Manoleta. Merci Amandine Poudou, qui est, je rappelle, sage-femme au Centre d'endométriose complexe d'Avignon. Et puis Madame Odile Gros pour la Mutualité française. Merci à toutes.
Merci.
Bonne journée.
Bonne journée.